Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on écoute Derrière les dunes, un documentaire de Niels Loret. Un peu partout existent ces lieux objets de rumeurs, fréquentés exclusivement par celles qui savent quoi y trouver. La réalisation d'un fantasme, la rencontre de partenaires sexuels, l'excitation de l'interdit. Ces lieux de cruising, les deux personnages du documentaire les ont fréquentés ensemble pour y explorer leurs désirs et y construire leur amour. Entre elle et lui, ça a tout de suite accroché. Ensemble, ils défendent une culture PD qui s'écrit au milieu des sillons creusés par le va-et-vient des corps dans ces lieux de drague à ciel ouvert. Derrière les dunes, les peaux se réchauffent, les corps se perdent et les désirs grandissent. Derrière les dunes, une culture se transmet, un patrimoine s'érode et un amour se cimente. Derrière les dunes, ils nous font découvrir les lieux où les hommes crousent en silence.
Donc ici, tu as juste un petit bois, là. Juste, on n'est vraiment pas loin de l'entrée. Et du coup, ici, c'est là, les lampadaires éclairaient pas du tout ici. Ça faisait vraiment une zone noire ici. Fait que tu avais un peu éclairage ici, un peu d'éclairage en bas. Mais là, quand tu arrivais là, tu étais dans le noir, juste à côté de l'entrée. Et du coup, des fois, il y avait 4, 5 garçons, 4 femmes comme ça. Voilà, quoi. Du coup, tu te mets là, tu vois, t'es dans le noir et puis tu vois un peu qui arrive, qui est là. Si c'est des gens que t'as pas envie de voir, tu t'éloignes discrètement, ils te voient pas. Tu peux déjà être un peu nu sans être trop exposé.
Derrière les dunes, par Niels Loret.
On se connaît depuis 2019 et on s'est rencontrés autour d'un atelier que j'animais à l'époque où j'étais salarié, et c'était prendre soin de soi, prendre soin de ses partenaires quand on fait le choix de baiser sans capote en 2019.
Ça a accroché quasiment dès le moment où on s'est rencontrés, quoi. Et une complicité qui a commencé.
Nos premières rencontres, nos premiers dates ensemble, on se calait, ils venaient à la maison, petit pack de bière. On discutait, on jouait ensemble, on buvait des bières tout en répondant sur les applis, les sites aux sollicitations. Et puis des fois, quelqu'un qui vient et du coup ça fait un trio. Ou alors, je suis chez moi en train de draguer, lui il est au boulot, il est 17h, il y a un mec qui vient à la sortie du boulot pour coucher avec moi et je lui envoie un petit texto, je suis avec un gars, si tu veux passer chez moi.
Dès le début qu'on s'est rencontrés, je me suis dit, ah mais c'est pas totalement un garçon. Pour moi ça c'était flagrant en fait. Et assez rapidement, elle fait sa transition. C'était un moment de... vraiment de grande nouveauté pour moi, parce que je m'étais jamais imaginé en fait relationner avec une femme trans. Comme moi à la base je suis vraiment branché mec, donc c'était ça aussi, cet inconnu que je savais pas comment ça allait se passer, et puis cet étonnement de me dire waouh, mais elle me plaît toujours autant en fait. Et avec ce côté, oui, un peu marrant, de moi j'ai transitionné il y a plus de 20 ans. Et donc elle qui transitionne pendant le confinement. Donc c'est ce truc marrant où souvent, ça lui arrive souvent d'oublier que je suis trans.
C'est un mec qui a la quarantaine passée. C'est un garçon très viril physiquement, très poilu, avec une barbe, tête rasée, chauve. Un mec trans qui a développé une grosse culture PD, quoi. Tout un imaginaire sexuel et porno qui l'a enrichi. Je pourrais dire que c'est un passionné du cul. C'est ce qui m'a beaucoup plu aussi chez lui.
Et on avait des fantasmes sexuels très très similaires, on avait vécu des expériences sexuelles très similaires. C'était quelqu'un qui était vraiment, j'allais dire vraiment pédé dans le sens aussi que je pouvais connaître. On avait un peu eu les mêmes lectures.
Aussi, on s'est aussi rencontré autour de stratégies de santé sexuelle communes et du multipartenariat. Ça, c'est clair. Le plaisir d'aller cruiser ou draguer sur les applis. Et du coup, ouais, des moments assez chouettes qui m'ont fait beaucoup de bien dans ma sexualité. C'était la première fois que je vivais une sexualité avec un partenaire régulier et qui se développait, du moins qui prenait des formes très différentes. Et c'était super plaisant, ça.
Je me sens vraiment dans une dynamique très égalitaire avec cette personne. Donc j'ai envie de continuer à fréquenter cette personne. Et j'en tombe amoureux. Comme on dit, c'est l'amour de ma vie actuelle. Pour moi, être avec elle, c'est vraiment essayer de faire cet exercice, de vraiment me mettre à nu en fait, avec quelqu'un. Arriver à me dire, je suis avec quelqu'un avec qui je peux vraiment... essayer en fait de me livrer en fait, même si c'est pas toujours facile.
Il n'y a pas que ça dans notre histoire, il y a aussi une histoire amoureuse et sexuelle et un couple quoi.
Une espèce de compagne de route rencontrée par pur hasard et on s'accompagne l'un l'autre dans une très grande confiance. Dans ce qu'on peut partager de l'un à l'autre.
Que je m'étais fait sucer par un mec qui avait pris un bonbon à la menthe extrêmement fort juste avant de me sucer et du coup ça m'avait fait des sensations assez incroyables.
Ah ouais, le trou là.
Il y a un trou ici aussi.
Ouais.
Entretenu, à l'époque on pouvait descendre un peu. Voilà. C'est quand même pas très discret. Et sinon il y a à l'autre bout. Et là, bon, on voit quelques emballages de capotes. Mais voilà, pas grand chose. C'est aussi pour ça que ça. J'ai surpassé, il n'y avait pas trop d'activité pour te mettre ce truc là. Les petits tours qu'on a fait, ou alors quand on lit un peu les commentaires, il y a plein de lieux en fait qui ont été, c'est quasiment dans toute la France quoi, plein de lieux quoi, les gens témoignent que c'était vivant et depuis qu'ils ont mis soit des gros rochers devant les parkings, soit qu'ils ont tout rasé, soit voilà.
Soit la police qui vient verbaliser pour stationnement ou juste pour intimider
les passants. Alors on voit qu'il y a encore des clients à la fellation gratuite. Voilà, on voit, avec la nôtre, ça fait 4 véhicules. Donc que des garçons seuls. Moi, j'ai commencé en lieu commerciaux, même si j'allais dans les lieux gratos et ou 5 euros. Non, je crois que c'était gratos et il y en avait un autre à 5 euros. Et c'était en 2003, quand je vivais à Paris. Ouais. Et la toute première fois que je suis allé dans ces lieux, c'est j'avais un partenaire, un sex friend, et du coup, je lui ai dit, mais vas-y, sors-moi. Donc j'ai été accompagné la première fois. C'est moi qui l'ai tanné pour qu'il m'emmène. Je lui ai dit, ouais, tu sais, je suis blasé d'aller là-bas et tout. S'il te plaît, oui, j'ai... Oh, ok. Ok, tu veux ? Allez, je t'emmène. Et on arrive dans la backroom en bas. On s'est pas arrêté boire un verre à l'étage. Hein. On est allé dans la backroom, mais là, ça a été... c'était fou, quoi. C'était fou. J'avais mille fois imaginé, mais jamais pu me représenter ce que c'était, ce mélange des odeurs, des cordes, tout ça. Puis cette sexualité-là, quoi. Enfin... c'était à Paris, il y avait quand même une population plutôt jeune par rapport à certains lieux qu'on... Et du coup, là, il y avait deux neuskis qui étaient en train de se prendre un skin. C'était fou, quoi. C'était, tu vois, 2003, beaucoup de crânes rasés dans le milieu. Une esthétique très... c'était ouf, quoi. Qui baisait sans capote en 2003, t'imagines. J'étais là, voilà. C'était tellement d'interdits en même temps, tellement de trucs que je voyais. C'était fou, quoi. Un niveau d'adrénaline de fou, quoi. Enfin, il y avait tout plein de flux qui se mélangeaient en moi, de peur, d'interdit, de tout ça, enfin. Puis mon sex-friend était très beau aussi. 1m90, il boitait un peu, tu sais, il avait un petit problème à la hanche. Très fin, tout dégingandé. Pour moi, la sexualité est beaucoup plus simple là-dedans que... Bon, il n'y avait pas Grindr, il n'y avait pas tout ça. Il y avait MSN. Et c'était vraiment beaucoup plus simple. Donc après, c'est ça qui m'a emmené. C'était le désir de rencontrer des garçons. C'était ça. Et puis le fait que j'étais pas du tout à l'aise avec la drague, la séduction, tout ça. Donc du coup, là, au moins, j'accédais à ma sexualité. Ma sexualité pour laquelle je m'étais battu d'avoir, de pouvoir vivre, quoi. Je pars de loin dans la sexualité. Hein. J'ai vraiment. J'ai pas été élevé par une famille catho, mais ça y ressemble en version athée, quoi. Donc, ce rapport au corps, il était pas simple à acquérir, quoi. À m'autoriser, quoi. Donc, c'est. Ouais, je me souviens que de bribes, quoi, de couleurs, de trucs. Puis la tête de ces deux gars, et le troisième, quand il relève la tête, comme ça. Ouh, il était beau comme des cœurs. Si je dis pas de bêtises, cette table, elle était derrière toi. Elle était de l'autre côté, là où il y a les ronds, c'est le truc. Elle était de ce côté-là. Et sur cette table, j'ai fait j'ai réalisé un de mes fantasmes. Et c'était, je suis arrivé vers 11h le soir. Et j'étais en short de sport, sans culotte, rien. Juste avec une veste zippée. Et du coup, je suis arrivé. Je suis passé devant le petit bois, là. J'ai croisé quelques regards. Je suis monté en haut là, des fois il y a des gens qui attendent. Je suis redescendu, donc il y a du monde qui commençait à bouger, qui a rebougé à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre. Souvent il y a des mouvements à nouveau, quoi. Surtout quand t'as moins de 40 ans, quoi. Et du coup, je suis venu, je me suis mise à plat ventre sur la table comme ça, j'ai baissé mon short et j'ai attendu, quoi. Et voilà, mais c'était la première fois vraiment que je me mettais à dispo comme ça, dans l'inconnu. Voilà, avec du monde autour, et c'était un de mes fantasmes, et voilà. Parce que ce que moi je venais chercher dans des zones comme ça, c'est plutôt de réaliser certains de mes fantasmes, comme l'exhib ou pas mal de choses, et notamment ça, une mise à dispo, ça a été mon... Voilà, j'avais le cœur, il me décollait la cage thoracique de la tête, tellement ça m'a déjà... J'étais... Voilà, et je me dis pas la suite.
Et toi, Jean ?
J'avais 15 ans et j'avais repéré qu'il y avait un lieu de drague, en fait, dans un parc, pas trop loin de chez moi. C'était une espèce de grotte artificielle, près d'un mini lac, et j'avais remarqué qu'il y avait des préservatifs, des mouchoirs par terre. Et j'y pensais, Et du coup, j'ai attendu qu'on me retire mon appareil dentaire. Et j'y suis allé un soir, quand mes parents étaient partis en week-end. J'y suis allé, parce que c'était ce truc de... Ce désir en fait, ce désir de, d'approcher des garçons, de coucher avec des garçons, et ce truc d'être, d'avoir cette peur et cette excitation, ce truc de se sentir en feu en fait, mais d'être terrorisé, surtout que j'avais pas mis mes lunettes alors que je suis myope, et du coup je voyais pas spécialement. Donc tu vois, le mec s'approche et puis tu dis « Ah mince, j'ai pas du tout envie qu'il m'approche en fait. » Je me souviens, je vais un peu dans la grotte, tout ça, il y a un mec qui m'aborde. C'était un jeune, il m'avait dit qu'il avait 21 ans après. Et donc il me demande qu'est-ce qui m'intéresse. Je lui dis « Ah, j'ai jamais sucé de mec. » Et du coup, on est allé dans un coin du parc, tout ça. Je sais pas si c'est du courage, c'est un peu ce truc où tu te dis mais j'ai ce désir en moi et donc j'y vais, même si ça s'est pas toujours très bien passé, même si a posteriori des années après je me dis mais je sais pas comment en fait j'étais vu par ces gars, parce que je me dis j'avais l'air du coup très jeune en fait, tu vois, je sais pas quel était le désir en fait des garçons pour moi. Il y en a certains avec qui j'ai pu discuter, il y en a deux trois qui j'ai pu dire que j'étais trans. Tout doit dire, il y avait que ça, j'avais très envie en fait, très envie de garçon. Je voyais pas d'autre alternative de toute manière. J'étais trans au lycée, au collège, lycée, j'avais pas spécialement d'amis. J'avais tenté de me rapprocher de l'assaut LGBT locale, mais ils savaient pas quoi faire en fait. Qu'est-ce que tu fais d'un ado trans et gay à la fin des années 90. Donc j'étais beaucoup resté dans mon coin, et surtout que pour les médecins, on disait « Ah ben les hommes trans, c'est extrêmement rare, ils disaient une personne sur 100 000 ». Et moi j'étais là « Ah ben dans la ville dans laquelle j'habite, il y a 100 000 personnes, donc du coup je suis seul en fait ». Pour les lieux en extérieur qui sont un peu agréables, ouais, ce sentiment de liberté, de plaisir en fait, de faire l'amour dans la nature, surtout s'il y a du soleil... Et encore plus si on est totalement nu, quoi. C'est vraiment comme si on était vraiment perdu dans la nature sauvage, seul au monde, avec juste quelques personnes autour, aussi dans une optique de sexe ou libertine potentielle. Ouais, je trouve ça assez fou, ouais, ce truc de pouvoir faire l'amour en pleine nature, sentir le soleil. Et du coup pouvoir faire des fois pouvoir crier, ou du coup des fois devoir se taire ou pouvoir faire des trucs duro sans se soucier de rien quoi.
Et du coup en fait tu t'arrêtes, tu regardes ce qu'il y a, tu te promènes, il y a quand même ce truc, voilà. Pourquoi aller se promener avec les hétéros au bord de l'eau alors que tu peux te promener dans une belle forêt avec des garçons et des gens qui ont cette culture de sexe et culture PD, quoi. Donc on va tout le temps à la plage naturiste parce que c'est moins violent visuellement. Voilà, normalement on marche ici un petit kilomètre et on tombe, voilà. Mais là en fait il y a des fils partout, tu vois.
Ma pratique du cruising était vraiment liée au fait d'être en couple. Et c'est vraiment quand on s'est rencontrés que très rapidement on est allé ensemble en sauna en particulier, et puis en plage nat et sur les aires de repos.
Donc on était à repos.
Oui, oui.
Hein, c'est pas pour chasser les PD, c'est vraiment pour trouver la dune.
Parce que moi, je trouve que ça me rassure en fait beaucoup plus d'y aller avec une autre personne. Du coup, je me repose beaucoup sur elle quand on est sur les lieux en extérieur pour faire le premier pas. Parce que je me dis, elle connaît mieux les codes. Et puis, à la base, je suis le genre de personne qui fait de l'anxiété sociale. Donc, je vais avoir du mal à aborder les gens, me lancer. Donc, c'est très. C'est plus facile pour moi de me reposer sur quelqu'un d'autre pour commencer à faire les approches, en fait, sur un lieu de drague. Et ça fait aussi. Du coup, si on est deux, c'est-à-dire qu'on peut commencer à être sexuel l'un avec l'autre, et ce qui peut amener à ce que d'autres personnes en fait se joignent à nous aussi.
Et là, il y avait eu un gars là qui était venu sur le parking.
La première fois, on était rentrés ensemble en fait dans le lieu, dans la mini forêt, et en effet, je crois pas qu'on avait couché avec, avec des mecs.
Non, non.
C'est ce truc où des fois en fait, en effet, on est ensemble et on commence du sexe ensemble et ça attire un ou des mecs. Et des fois, on commence du sexe ensemble et il y a absolument rien qui se passe.
Bah là, il y avait un gars qui était venu, mais on n'avait rien fait avec lui.
Ah, bah,
ça nous plaisait pas.
Ouais.
Donc il y a eu ça quand même assez vite. Après il y a eu le confinement, là c'était mort. Puis après, sortie de confinement, je crois qu'on est allé à la plage ensemble, qu'on a fait.
On était allé en sauna ensemble à une époque où on s'était dit il faut pas qu'on couche ensemble.
Oh, oui.
Et du coup c'était le truc où on s'était dit mais est-ce que c'est crédible en fait d'aller au sauna ensemble en se disant qu'on va pas coucher ensemble.
Tu croises toujours des gens qui vont, des gens qui repartent. Comme ça, on se croise. Alors, du coup, on est quand même sur une échelle d'âge assez élevée. Hein. Très régulièrement, à chaque fois, hein, tu auras des gens de la trentaine. Au début, il y avait quelques couples hétéros aussi. Normalement, au début, là-bas. Donc là, ça correspond à peu près ici. Et puis plus tu avances, plus c'est gay. Du moins, il n'y a plus du tout de mixité de genre. Sauf quand je viens. Et du coup, après, il y avait quand même pas mal de gens, la trentaine, la quarantaine. Mais sinon, on est sur au moins la moitié qui ont plus de 50 ans. Et un bon quart qui a plus de 60.
Bonjour.
Bonjour. On aime beaucoup en fait voir l'un et l'autre sexuel avec d'autres personnes, ou nous-mêmes nous montrer à d'autres. Donc ça a été, on a eu une période où on est allé à plusieurs endroits comme ça, ou sur les plages nattes.
Ouais. Oh, l'exhib à Kerema là qu'on a fait. Mmh. Ouais, même, nous on fait l'amour en exhib. On était dans des dunes là qui sont assez folles. C'est un endroit avec une belle richesse ornithologique. Et du coup, on était posés. Il n'y avait pas grand monde ce jour-là parce qu'on arrive souvent tard parce qu'on n'aime pas trop le soleil, le gros cagnard. Bon, on se caresse tout le temps hein, quand on est à poil, même quand on est habillé. Il y a un mec qui vient, qui passe un peu, et du coup il nous dit non, j'ai pas envie de, du moins par geste, hein, non, j'ai pas envie de participer. Et du coup on a fait l'amour, c'était trop bon quoi. Et le mec restait et d'être regardé comme ça, d'être offert à quelqu'un qu'on connaît pas et qui était plutôt plaisant hein, en plus. Donc, du coup c'était super super excitant et je crois que j'avais jamais fait ça avant, hein, je crois. Et du moins avec que des personnes qui me plaisent. Et le public et la personne avec qui je fais l'amour. Et du coup, cette connivence pas de couple, mais de ce partenaire amoureux. Et voilà. Et le mec, en partant, nous avait fait un petit pouce en l'air comme ça, avec un grand sourire et tout. Une fois qu'on a. Que j'avais joué quoi, que j'avais hurlé même. Et du coup, le mec avait fait un petit pouce comme ça, super et tout. Enfin, vraiment, c'est une très belle relation sexuelle aussi, cet exhibe, ce truc-là, quoi.
Je pense que souvent ça se voit en fait qu'on est attaché l'un à l'autre et qu'il y a beaucoup de gens, je pense, à qui ça plaît en fait de voir dans des lieux de sexe en fait des choses qui peuvent être vraiment de l'ordre de l'amour et de la douceur et de la complicité, quelque chose de moins désincarné que ce qu'ils peuvent voir à d'autres moments, quoi.
J'ai fait une transition donc de pédale à transmeuf et du coup je me considère toujours comme pédale. J'ai toujours une sexualité pédée. Ma sexualité elle a pas changé, bien que quand même un petit peu, mais par contre voilà, je suis plus du tout considéré par la plupart des gens comme pédé, quoi.
Avant, sans transition, il y avait ce côté très confortable de je vais en sauna, je fais déjà partie du coup de ce monde sexuel gay là. C'est, je suis déjà avec quelqu'un, je suis déjà avec un garçon et on va en inviter d'autres en fait à nous joindre. Ça, je trouvais que ça, en y repensant, je me dis ah, ça m'aidait à me fondre dans la masse. Ou pareil, j'étais pas juste un mec trans, j'étais mec trans déjà avec quelqu'un.
Il y a quand même une vision qui est partagée entre lui et moi, qui est la sexualité comme culture, quoi. Quand je dis une culture PD ou PD, c'est des pratiques sexuelles, des dynamiques sexuelles quand même, quoi. Je peine à imaginer une culture PD sans cette sexualité, quoi. Sans, j'ai besoin de défendre l'idée que la culture PD est une culture sexuelle, quoi. Avec des actes sexuels, des pratiques sexuelles et des techniques sexuelles. Et du coup, si je défends ça, c'est que si être PD, c'est une identité et puis des pratiques, bah, moi, je vais me faire complètement effacer de ça et je ne pourrai plus défendre le fait que j'ai légitimité à continuer à dire à des garçons PD que je les désire et que si ça le fait, bah, on pourrait coucher ensemble et avoir du sexe ensemble. Or, si ça devient qu'une identité de garçon qui kiffe des garçons, et ben moi je m'identifie plus comme garçon, je m'identifie comme pédale, comme pédé, comme pédale hormonée. Et, mais du coup, bah, ça me fera, ça m'effacera et voilà.
On est retourné en sauna l'été du déconfinement. Et commencer à apparaître ce questionnement sur est-ce qu'elle va être acceptée en sauna gay. Et c'était se demander un peu à quel degré de transition physique, quel degré d'androgynie ou non, de féminité ou non, va être acceptée en fait dans un sauna. Et pour moi, la question se pose moins une fois qu'on est rentré à l'intérieur, mais plus à l'entrée en fait, comment l'employé va réagir. Et il y a juste une fois où dans un sauna à l'entrée à Clermont, le gars nous a dit « Ah, mais vous savez que c'est un jour que c'est réservé aux garçons. » Je pense que c'était encore à une époque où elle se rendait pas compte en fait qu'elle pouvait être perçue en fait comme une meuf cis. Et donc, c'était bah, de dire au gars bah, « Oui, nous, ça nous intéresse en fait ce que vous nous proposez, ce que vous nous dites. » Et puis voilà, je suis trans, tout ça.
Plus ça allait, plus mon corps changeait. Et donc du coup, là, ça a posé des questions sur justement ce. On devenait deux personnes trans, et donc du coup, ça créait des enjeux différents que. Deux PD6 ensemble, quoi. Un PD stealth, un PD trans qui passe, du moins, et un PD6, quoi.
Peut-être aussi que, avant qu'elle transitionne, donc il y a moi qui étais trans, c'était juste moi qui étais trans, donc j'étais plus l'objet de curiosité. Et du coup, là, on se retrouve à deux. Ouais, ça fait deux. Ouais, ce truc, ouais, deux personnes qui convoquent des curiosités différentes. Ce truc depuis sa transition où t'as vraiment les mecs en fait qui vont venir mater, se poser juste à côté, mater, juste parce qu'ils ils ont vu une nana seins nus quoi. Il n'y avait pas ça avant, tu vois, quand on allait à la plage. Avant qu'elle transitionne, ben voilà, c'était juste les interactions classiques. C'était pas du même ordre. C'était pas la même insistance, ouais, les trucs. Toi, moi, en tant que trans, bon, il y a des mecs, bon, qui, pareil, qui me regardent, mais j'ai pas l'impression qu'il y avait ce truc insistant et plus violent, en fait, dans l'attitude, dans le comportement qu'elle peut subir, en fait. La dernière fois qu'on est allé en sauna ensemble, moi j'ai eu une espèce de blocage en fait, où je suis rentré dans un mode à me dire, elle est avec un garçon, mais ce garçon sans doute ne doit être pas du tout intéressé par moi, je vais pas les rejoindre, donc je suis allé m'isoler et j'étais pas bien, et puis et ça m'a bloqué en fait, ça c'était il y a quand, je sais pas, peut-être un an et demi, j'aurais pas dire, deux ans peut-être. J'arrive pas à imaginer, à débloquer un imaginaire autour de comment, en effet, continuer à aller à deux sur des lieux de drague, en extérieur ou en sauna, et que ce soit satisfaisant pour nous deux, dans le sens à ce que je sois vraiment désiré et le bienvenu, au lieu d'être juste la personne qui accompagne la meuf trans. Et si elle précise « Ah, je suis avec mon mec », même si elle dit que je suis trans, ils comprennent pas, ils sont juste genre « Non, mais c'est cool, oui, ton mec, il peut te baiser aussi pendant que je te baise. » Et du coup, c'est d'expliquer ben, « Je suis un mec trans et que je suis passif aussi. Pour » Pour moi, en fait, je me dis « Ah, mais là, le gars, la manière dont il interagit dans la conversation, il cherche en fait, il cherche une meuf de toute manière. Et je pense pas qu'il aura envie de moi, qui ressemble physiquement totalement à un garçon. » Et donc je me bloque direct, j'essaye même pas quoi. C'est assez rare ces derniers temps qu'on est relationné avec une troisième personne, parce que je suis dans l'idée que ça va pas marcher, on va pas trouver, ça va être que des mecs hétéros ou vaguement bi et qui vont pas être intéressés par moi aussi.
Du coup, de fait, là maintenant, actuellement, on est plus du tout dans cette dynamique de draguer à deux ou de cruiser à deux. Ça nous est arrivé encore de s'arrêter sur une aire, tout ça autour, ou d'aller sur des plages, mais on est plutôt couple exhibe ou voilà. Bon, après, il n'y a pas si longtemps, on s'est retrouvé avec un garçon dans les dunes, mais c'est. C'est pas quelque chose qui est dans les dynamiques d'avant, sur les deux trois premières années où vraiment on a été, on se disait bah allez, on va au sauna ou on va si on va ça ou on drague à deux ou ah tiens y a un gars avec qui je discute qui serait intéressé de voilà. Et donc du coup bah ouais, ça empêche pas d'avoir une belle sexualité à deux et du moins d'être très épanoui et de prendre énormément plaisir à deux. Voilà quoi. Mais bon, j'ai quand même fait. Du moins pour moi, ça a été un petit cap à passer de me dire bon, bah, il n'y a plus ce truc à deux, chose que j'adorais quoi. Aller débarquer sur une zone de baise assez ornie ou assez timide et puis d'un coup. Que le truc monte et qu'on fasse des. Qu'on soit un peu au milieu d'un petit gangbang, d'un petit truc comme ça. Où c'est foufou de vivre ça avec son amoureux, quoi. Et j'aime beaucoup, quoi. Mais c'est fou, ouais, de vivre ça avec son mec, quoi. C'est la première fois que ça m'arrive.
Mais ouais, c'est une période de grand questionnement pour moi, en effet, parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a fait régulièrement en couple. Et c'est ça qui est dommage, c'est pour ça qu'il faut qu'on retourne ensemble sur les lieux de cruising, les saunas. Ben, c'est vrai que souvent, on nous a plusieurs fois fait des compliments, en fait, en sauna ou autre, sur notre complicité, ce qui se dégage d'entre nous, en fait, quand on fait l'amour ensemble et avec d'autres.
C'est du fake ou que c'est pour protéger la dune qu'ils ont tout parqué là ?
Non, bah, c'est les deux quoi, c'est pour protéger la dune en effet, et c'est aussi parce que t'as pas d'espace socialement acceptable pour avoir du sexe en public quoi. Enfin en public, dans la nature.
Mais en fait c'est beau, ça a bien repoussé. Regarde les petites immortelles qui reprennent leur... Bon, ouais, ça sauve un peu la dune. A priori, le naturisme est toléré, parce qu'il nous laisse bronzer tout nu et tout nu ici. Mais c'est vraiment, a priori, la sexualité qu'ils ont virée. À la limite, ça m'irait s'il y avait déjà des plages naturistes autorisées, vraiment, voilà quoi. On pourrait faire un travail. Donc ça pourrait, ce serait quelque chose de franc quoi. Est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit, est-ce qu'on peut être nu ou pas, enfin voilà quoi. Après, c'est sûr, hein, moi je reconnais la dune, et vraiment la dune était sillonnée quoi. Mais autant que la partie surfeur à la torche, hein. Les gens ils coupent à travers la dune et à la fin ça fait des sillons qui effrite la dune et tu vois le sable qui s'écoule comme ça, comme tu le vois là. Il y a toujours des belles pédales qui viennent là, hein, des vraies et tout. On en voit depuis tout à l'heure et tout. Et voilà, ça consomme plus. Ça pourrait être inscrit en fait. Attention, vous arrivez en zone naturiste et voilà quoi. Vous pourrez être exposé à des nudités ou des pratiques. Et voilà, mais en fait, non, il n'y a pas du tout cette tolérance-là. C'est chassé, chassé, chassé. Enfin, on a l'impression qu'on part complètement en arrière. Autant il y avait peut-être une tolérance avant, mais là, c'est vraiment. Tous les lieux se font détruire, chasser, parquer, ouais. Et même en niveau naturisme.
Même au niveau naturisme seul, même à mon petit niveau de quelques années, pareil, c'est les plages naturistes qu'on fréquente quand même très très fréquemment. En fait, on va se baigner que en plage naturiste. Mmh. Et on voit au fur et à mesure être de plus en plus rejeté, vraiment au fin fond de la plage, vraiment sur les cailloux.
Puis une grande tristesse de voir les lieux désertés, les lieux détruits par les services techniques d'une ville ou d'un département, et puis voir les chiottes automatisées, voir les grillages s'opposer, les grillages être détruits, les grillages être fermés, les grillages être détruits comme sur la Transbigouden. Enfin voilà, et voilà tout ça a évolué quoi, et dans un effacement et une disparition. Donc là on est en haut de la côte et on vient de passer un talus. Et on est dans une allée couverte, toute petite, pas du tout entretenue pour la randonnée, mais en tout cas, pour, on voit qu'il y a encore de l'activité, il n'y a pas de branches qui poussent, il n'y a rien. Petite activité, il n'y a plus de capote par terre, peut-être, soit les mecs sont devenus propres, soit il n'y a plus beaucoup d'activité. Et voilà, donc là, il y a des belles branches sur lesquelles on peut s'appuyer, on est retiré. On n'est pas caché pour autant, c'est-à-dire que tous les mecs qui viennent là viennent voir s'il y a de l'activité, venez voir s'il y avait de l'activité ici. Et de temps en temps, tu tombais sur quelque chose qui se passait, et puis des fois avec des garçons qui te plaisaient, et des fois des gens qui t'invitent. Donc pareil, ça se fait avec le regard. Tu restes à distance, quand la personne te voit, généralement elle te fait signe de venir ou pas. Ouais. Voilà. Et sinon, tu montes avec la personne que t'as circulé un peu et que tu t'es exprimé, que ça s'est exprimé, que vous aviez envie de vous retrouver plus loin, quoi. Voilà. Ici, on peut tenir à 5-6, moi, le maximum que j'ai fait, c'est 4, mais ici, mais on est assez proche, généralement. Bon, avec les bogues et tout de châtaigniers, on est... Moi, pour fisser, je mettais mes pieds, mes genoux sur les chaussures du mec. Voilà. J'en ai fait beaucoup déjà. Et en fait, alors que sur un territoire, on sait que tout le monde sait que c'est un lieu où les homos se retrouvent, et donc beaucoup, tout le monde le sait, enfin personne va se promener innocemment là-bas, quoi. Ici, quand ils avaient beaucoup coupé, là, le soleil donnait ici, et du coup j'avais mis ma serviette ici et j'étais comme à la plage, à poil, en train de bronzer. Les mecs passaient. Bon, j'avais levé personne ce jour-là, mais c'était assez excitant aussi. Dans ces lieux-là, bah en fait, on expérimente sexuellement. On se dit ça me plaît, ça me plaît pas, ça c'est, j'ai envie de chercher, ça pas, etc.
C'était vraiment très 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 varié en fait, les garçons avec qui j'ai pu coucher, quoi. Alors que quand je pense un peu au fantasme, type de garçon idéal, idéaux que j'avais dans la tête, en effet, ça ressemblait pas du tout à ça. Au parc, c'était vraiment ouais, qu'est-ce qui va se passer sur le moment, et je fais avec les garçons qui sont présents, avec vraiment sans trop de critères d'âge ou de physique. Mais pour moi, ouais, ça jouait. Ça a joué pour me faire rendre compte que vraiment les hommes en fait ont des tas de types de corps très différents. Mais les mecs en fait, les gens normaux entre guillemets, ils sont vraiment pas musclés, ils ont vraiment pas le ventre plat. Et du coup, j'ai pas à avoir honte en fait, à me sentir mal de pas avoir un ventre plat, d'avoir des poils dans le dos. Même sans rapport sexuel, c'était très décomplexant.
Pour moi, les lieux de cruising en extérieur permettent à plus de gens, plus de corporalité, d'avoir accès au sexe. Les applis, en fait, on va sortir de chez soi ou recevoir quelqu'un chez soi. Faut se déplacer, prendre le métro ou la voiture, ou aller à pied, traverser la ville, aller chez le mec, etc. Et du coup, ça fait que en fait, les personnes qui fréquentent les applis, bah, du coup, vont être beaucoup plus restrictives.
Et l'avantage que je trouve d'aller sur les lieux en réel, par rapport au site web, aux applis, c'est que souvent les gens, ils sont plus beaux en vrai, quoi. Je pense qu'il y a peu de gens qui arrivent à prendre une photo, qui les mettent en valeur. On se dit souvent, mais les gars ils envoient une photo de leur tête, mais on dirait des tueurs en série, quoi. Puis là, je trouve que la plupart des gens sont pas moches en fait. C'est assez rare les gens que je trouve vraiment laid, vraiment vraiment moches. Il y a quand même beaucoup de gens qui ont quand même un charme à un moment ou à un autre. Ouais, ça ressort pas forcément en photo.
Quand t'as un mec, la trentaine, qui est là, qui a sa pause de midi, qui passe sur la zone de drague et du coup qui est assez horny, il fait un tour, il voit s'il y a des gens qui lui plaisent, et puis au final, bah, il se dit le mec 55 ans là, du moins je sais pas quel âge il a, mais un mec qui serait beaucoup plus âgé, qui a 20 ans de plus que lui ou 25 ans de plus que lui, et du coup qui est présent et qui lui plaît, et du coup bah au final il aurait pas daté sur l'appli, mais au final bah là il est là et puis du coup il a du sexe avec, et du coup je trouve que ça crée des dynamiques d'accès au sexe qui sont complètement différents. Quelqu'un qui est pas à l'aise avec la langue française, quelqu'un qui est pas à l'aise avec avec l'écrit, quelqu'un qui est voilà, bah du coup sur les sites c'est pas du tout la même chose quoi, c'est pas du tout le même accès quoi, et du coup voilà, et je trouve que en fait justement ces zones de baisse, c'est des zones de socialisation du sexe, dans le sens on partage du sexe quoi. Si t'arrives et que tu fréquentes ce lieu assez régulièrement, bah du coup tu vas partager du sexe avec des gens avec qui tu partages pas forcément du sexe habituellement, et j'ai eu des super plans cul avec des mecs 55-60 ans ou quand j'avais la vingtaine, des gens de 45-50 ans quoi, qui savaient baiser, qui sont respectueux et tout, et j'avais du bien meilleur sexe avec des daddies qu'avec des jeunes quoi, qui en plus étaient souvent moqueurs ou très c'est dur quand on a un corps pas dans les canons de la masculinité, tu vois, et du coup moi j'ai été beaucoup plus respecté et bien baisé par des mecs de 45-50 ans à l'époque quoi. Là où j'ai pu commencer à avoir ma sexualité en exprimant mon genre, ça a été souvent dans des lieux comme ça, et je connais plein de trans meufs qui ont vécu ça, et beaucoup de cross-dressers aussi qui peuvent vivre leur sexualité comme ça, et c'est beaucoup plus facile que d'aller dans le bar LGBT du coin de ta ville, de ta petite ville, et d'arriver sapé, c'est pas évident quoi. Donc c'est des lieux d'expérimentation aussi de toi et de tout ça. Et là, après, quand il y a des mecs qui veulent... Donc là, on est plutôt à la sortie de l'espace. Et quand il y a des mecs qui veulent vraiment avoir de l'intimité, ils partent sur la partie haute, là, où on n'est plus vraiment sur la zone de drague. Mais on atteint la petite colline avec la forêt. Et il y a des endroits où tu peux te planquer. Voilà. Moi, j'avais repéré deux, trois trous. Mais ce que j'aime, c'est quand il y a du monde autour et que, voilà, je viens pas ici pour me faire un plan... au pieu avec un mec quoi. Sinon de toute façon on va chez lui ou chez moi quoi. Et ici là je me suis mise en exhibe là où j'ai baisé avec un mec, plein de gars autour. C'était pas mal.
Bonjour.
Bonjour. Faut les faire durer ces lieux, faut les défendre. Enfin, moi c'est sûr, hein, j'ai rêvé, hein, tu vois, de PD qui se mettent ensemble et qui disent, bah non, vous allez pas nous reprendre Crash Gwen, c'est bon, arrêtez de nous chasser, quoi. Je veux dire, ce lieu, il est connu depuis les années 80 a priori, et du coup, chez personne, il n'y a pas d'habitants, il n'y a pas de... Voilà, on n'est pas dans une zone où il y a une école ou je sais pas quoi, ou n'importe quoi, juste... Puis ça se passe dans le bois, il n'y a personne qui est à poil sur le parking, sauf à 2h du mat, quoi. Ça m'est arrivé, voilà quoi, mais on a toujours été chassés des lieux. Mais là, quasiment tous les lieux se font raser, fermer, grillager, bétonner, foutre des gros cailloux à l'entrée des parkings. Donc non, ça fait partie du gros backlash contre tous les trucs LGBTI actuels, quoi. Comment on défend ça ? Moi, j'avais rêvé hein, qu'on passe et puis on prenne les contacts des gens et on dit, bah voilà, on va faire une tribune, on va faire un truc, on va présenter un truc à la mairie, on va faire une tribune dans la presse locale et dire, bah voilà, on veut notre espace naturiste, on œuvre collectivement à ce qu'il y ait des bons comportements dans les dunes, qui ne soient pas sur de l'exhibe non consenti auprès des passants du bord de côte et voilà quoi. Évidemment, je rêve de défendre notre patrimoine, quoi. Parce que c'est du patrimoine, tout ça, quoi. Et il est présent dans toute la France. Tu peux te dire que partout où il y a une ville, il y aura des zones de drague autour, quoi. Et là où il y aura des grosses villes, il y aura des... plus et des zones de drague beaucoup plus fréquentées, plus grosses, etc. Et souvent plus anciennes aussi. Partout en France, il y a ces lieux-là, quoi. Donc, il y a un vrai patrimoine. Si t'habites en Creuse, je connais des endroits en Creuse. Si t'habites en Ardèche, je connais des endroits en Ardèche. Si t'habites... et c'est pas forcément les endroits les plus foufous, quoi, mais en tout cas, il y a une survivance de ces lieux-là et ça a été développé partout. Partout, il y a des homos, des bisexuels, des garçons qui ont envie de relationner avec des garçons, des transmeufs, des travestis, des cross-dressers.
On est partout, donc partout, il y a ça.
C'était Derrière les dunes, un documentaire sonore de Nils Loret. Mixage, Étienne Gracianette. Illustration, Lazare Lazarus. Avec le soutien de la SCAM, Brouillon d'un rêve sonore, La Culture avec la copie privée, et de 42 contributeurices au financement participatif. Merci à Fanny Dujardin, Alice Le Filleul et Marc-Antoine Granier pour leur écoute. Et bien sûr, merci aux deux flamboyantes pédales de ce documentaire pour la joie, la confiance et les moments partagés. Paris, février 2024.
La séance de gymnastique sonore se termine. Vous avez entendu Derrière les dunes, un documentaire de Nils Loret. Pour plus de sueur, rendez-vous dans les archives de l'émission sur canalb.fr. À bientôt.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.